Voilà, vous êtes bienvenus cette nouvelle année dans cette maison. Je vous souhaite une bonne année. Est-ce que vous m'entendez? Ceci est un petit essai de voix. Et maintenant, ça va mieux? Non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, ça va? Donc, on est très heureux et fiers d'accueillir aujourd'hui Mgr Cockerels qui est là. Il avait toujours promis de venir. Enfin, il est venu. Donc, il vient recueillir les fruits, n'est-ce pas, dans ce cours. C'est pas pour ça, je savais pas qu'il allait venir, mais j'avais sorti Pastoralia, parce que ceux qui reçoivent Pastoralia savent que Pastoralia a commencé une série, je crois, sur Vatican II, où il y a un article du père Sauvage, les Belges au Concile Vatican II, avec des photos que d'ailleurs j'aurais procurées, et puis après il y a un article de ma part sur Lumen Gentium, qui est en fait le résumé du cours que je vous ai donné. Alors pour ceux qui viendraient ici comme ça, un peu voir ou revoir le paysage, je rappelle que toutes les leçons qu'on a données le soir sont désormais sur le site de l'IET. Elles y sont toutes, jusqu'à celle d'aujourd'hui. Donc il y en a qui les ont déjà réécoutées. Je crois que ça donne assez bien quand on les réentend. La seule chose qu'on n'a pas quand on écoute les audios, là, c'est les merveilleuses annexes que je vous donne, hein, ces plans, là, ces vrais rébus, enfin, ce truc qui est là au tableau, que déjà au deuxième rang, on ne voit plus. Enfin, on va essayer de se servir aujourd'hui de ces plans. Alors, je vous dis tout de suite comment marche le rébus. Dans ce dessin-là, qui n'est pas au tableau, dans ce plan, il y a une sorte de figuration, c'est pas un pot de fleurs, c'est pas un bouquet de fleurs, ce sont les textes hein, de Vatican II mis dans une certaine composition florale, si vous voulez, avec la deuxième, la troisième, la quatrième session, trois moments de promulgation à la quatrième session. Alors vous avez sous le gros trait là, les quatre constitutions, hein, avec Sacrosanctum Concilium pour commencer, Lumen Gentium ensuite, Dei Verbum qui est le fondement du fondement, vous rappelez, et l'aboutissement dans Gaudium et Spes, ça sont les quatre constitutions, et tous les autres textes s'ordonnent d'une certaine manière, très majoritairement à Lumen Gentium et certains de ses chapitres. Ça, je ne vais pas faire la démonstration maintenant, c'est pour votre imagination créatrice, mais si vous mettez en imagination ce magnifique dessin, là, au début de l'autre plan, hein, enfin, si on le réduisait à la taille de l'autre, c'est devenu impossible aujourd'hui, vous auriez, enfin j'expliquerai ça tantôt, un peu mieux j'espère, vous auriez les lignes de force du magistère post-conciliaire tel qu'il a ou n'a pas beaucoup suivi les courants des textes du concile. Ça je vais vous expliquer un peu plus longuement tout à l'heure. Donc la leçon d'aujourd'hui s'intitule « De Vatican II à nos jours ». Il y en aura encore une autre la semaine prochaine sur la vraie réception de Vatican II, son herméneutique. Est-ce que ça a vraiment commencé, oui ou non? Ça c'est pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui on va s'approcher de cette question en traçant quelques lignes depuis Vatican II jusqu'à nos jours. Alors j'ai choisi de procéder en plusieurs temps, comme d'habitude. Je présenterai la figure d'un pape, Paul VI. Qu'est-ce qu'on peut dire de Paul VI? D'un théologien parmi les théologiens, qui n'est pas Philips cette fois-ci, mais qui sera Congar, le père Congar, grand théologien qui a en partie fait le concile, mais ne s'est pas identifié au concile. Et après, je vous expliquerai ce rébus là, avec tous ces textes, voilà comment il s'articule, et même je trouverai encore autre chose à dire sur la fin si on en a le temps, sinon ça serait pour la semaine prochaine. Bien. On a donc déjà tenté plusieurs fois, je vous le rappelle, au cours de notre longue excursion, de ressaisir les axes du concile, les grands axes. Et nous l'avons fait sous l'angle des quatre constitutions, selon le schéma que je vous avais proposé au début, que vous souvenez ce schéma en losange, si vous voulez, hein, et qu'il fallait comprendre comme ceci, depuis la célébration liturgique, Sacrosanctum Concilium, jusqu'à l'insertion dans le monde avec ses joies et ses allégresses, Gaudium et Spes, le Concile a vu dans l'Église, avec Lumen Gentium, dans l'Église, la manifestation du grand mystère qu'est la révélation divine, Dei Verbum. Et réciproquement, parfois, les choses vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut passer de Gaudium et Spes, on peut voir comment la constitution pastorale va éclaire, a posteriori, l'importance fondatrice d'un décret comme celui sur les missions, et surtout sur la liberté religieuse, auquel nous allons revenir. Et puis nous avons essayé aussi de condenser une autre fois notre parcours avec la pensée de Monseigneur Joseph Doré, si vous vous rappelez. Il avait, un peu avant la Noël, c'est dans la documentation catholique, estimé que le Concile tient en quatre mots. Si on faisait l'interro, on demanderait, hein, c'est quoi ces quatre mots? Alors, les quatre mots, c'est célébration, communion, confession, mission. Et ça, c'est pareil, c'est les quatre grandes constitutions. Célébration avec Sacrosanctum Concilium, communion, ça c'est Lumen Gentium, confession, c'est Dei Verbum, mission, c'est Gaudium et Spes. Donc il a fait toute une démonstration de ces quatre mots dans le texte que je vous ai déjà cité, je ne vais pas le reprendre. Plus récemment, dans la revue théologique de Louvain, M. Étienne Fouillou a proposé une autre nomenclature encore, qui nous rapproche du sujet de ce soir. Il dit ceci, à propos des grands mouvements qui nous intéressent. L'histoire de l'Église catholique en Europe occidentale est celle d'une série de crises fortement médiatisées qui constituent sa modalité propre d'entrée dans la postmodernité. Que l'Église soit en crise, ça prouve qu'elle entre dans la postmodernité. La forte fièvre consécutive au Concile Vatican II n'est que la plus importante d'entre elles. Une crise parmi d'autres, très importante, mais enfin une parmi d'autres. Cette histoire mouvementée comporte quatre phases par lesquelles sont passés tous les rameaux de la catholicité ouest-européenne. Alors, il va dire comment il énonce ces quatre phases, ces quatre étapes. D'abord, il y a eu le temps du malaise, dit-il. Ce malaise est né vers la fin du pontificat de Pie XII, qui ne se dissipe vraiment, ce malaise, qu'avec le tournant pris à la première session du Concile. On a senti autre chose. Puis, il y a eu le temps de l'euphorie. C'est l'euphorie née des espoirs, engendrée par Vatican II, laquelle euphorie s'est très rapidement heurtée à une double contestation. Contestation par le courant traditionnaliste d'une part, et l'aboutissement de ce courant dans le schisme de Mgr Lefebvre, rappelez, on en a parlé. Mais d'autre part, il y avait aussi dans cette contestation un autre mouvement qu'on pourrait appeler la gauche du Christ, qui, dit-il, a fait long feu, miné de l'intérieur par les ruptures avec l'institution ecclésiale. Et puis, avec la fin du pontificat de Paul VI et surtout Jean-Paul II, pas encore Benoît XVI, eh bien, l'heure est maintenant à la tentative de restauration. Vous avez bien vu, hein ? Malaise, euphorie, contestation, restauration, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme, restauration qui se poursuit sous Benoît XVI. Donc, si vous voulez voir la démonstration de ces quatre périodes, allez voir dans le dernier numéro de la revue théologique de Louvain, ce bel article de Étienne Fouillou. Mais nous, aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'après-concile, en partant, je vous le disais, d'un pape, Paul VI, à partir de ses interventions conciliaires, d'ailleurs, que certains ont jugé inopportune, mais on va voir. Puis nous allons nous interroger sur... On va interroger un des théologiens les plus marquants de Vatican II, qui allait devenir in extremis cardinal, une institution que longtemps il avait lui-même dénigrée. Mais voilà. Alors il était content hein, quand il est devenu, parce qu'il était vieux, hein, donc ça arrivait déjà à l'époque. Ensuite, je proposerai une sorte de panorama du magistère conciliaire dont je voudrais montrer l'enracinement dans le concile. Puis je dirai encore un mot de l'évolution en cause. Qu'est-ce qui est au juste en jeu dans ces évolutions? Et la prochaine fois, comme je l'ai dit, nous réfléchirons à ce qui se passe lorsque, selon le vocabulaire très précis qu'on utilise, lorsque s'opère la réception d'un concile. Réception, ça veut dire, ça ne veut pas dire la réception de Nouvel An au Palais Royal, hein, c'est pas ça, hein, la réception d'un concile. Et qu'en est-il d'ailleurs de ce qu'on appelle aussi son herméneutique, son interprétation, à laquelle tient beaucoup le pape Benoît XVI. Prenons d'abord les interventions de Paul VI. Ceux qui suivent de près notre Bible, hein, le livre d'Omalley, l'événement Vatican II, parce qu'ils ont investi là-dedans, donc ils le lisent, hein, ils en disent du bien d'ailleurs. Ce livre qu'on a vendu à bas prix, là, vous vous rappelez, hein. Bon, eh bien, ceux qui lisent ce livre, et même peut-être les autres, auront remarqué que, au fond, Jean XXIII a peu pesé sur la marche même du Concile. C'est lui qui l'a initié. Mais à partir du moment où le Concile est lancé, Jean XXIII n'intervient pas, sauf une fois, pour envoyer à la refonte le premier schéma du De Ecclesia. Puisqu'on n'en sortait pas, le schéma n'était ni accepté ni refusé, il fallait bien intervenir, il est intervenu pour envoyer à la casse le schéma. Mais Paul VI, lui, est intervenu, au fond, de plus en plus souvent, et surtout, on le sait, en retirant quatre sujets à la discussion de l'Assemblée. Je vais y revenir. Mais, au fond, dès le 6 novembre 64, et pour la première fois depuis le Concile du Latran, le 5e Concile du Latran au 16e siècle, pour la première fois depuis le 16e siècle, le 6 novembre 64, Paul VI, comme pape, est venu dans le Concile. Ça n'était jamais arrivé depuis quatre siècles. Il s'est rendu présent à la Congrégation Générale pour parler en faveur du décret sur l'activité missionnaire qui venait pourtant d'être renvoyé à la révision. Il a tenu à dire tout le bien qu'il pensait de ce schéma. Le 16 novembre, 10 jours après, c'est le début de ce qu'on a appelé la semaine noire, n'est-ce pas, pour certains, le pape devait intervenir à 3 reprises pendant cette semaine. Il intervient pour postposer le vote d'approbation du texte de base sur la liberté religieuse, grand texte, hein, que tout le monde attendait, en particulier Monseigneur de Smet et ceux qui travaillaient avec lui. Non, il a fait postposer le vote. Il a envoyé une série de 19 amendements à apporter au décret sur l'écuménisme, dont le père Potier vous a parlé. Et troisièmement, il a voulu communiquer cette fameuse note explicative préliminaire qu'on trouve à la fin du chapitre 3 de Lumen Gentium et qui sert, paraît-il, à interpréter la collégialité surtout. Donc, comme dit O'Malley, quelles qu'aient été les bonnes intentions de Paul VI, son action bouleversa profondément la majorité des évêques. Et pire encore, elle nourrit le soupçon qu'un petit nombre de pères conciliaires le manipulaient, le pape, pour arriver à leur fin et obtenir ce qu'ils ne pouvaient avoir par le biais des délibérations à Saint-Pierre. Mais rétrospectivement, les commentateurs portent aujourd'hui un jugement favorable sur cette décision de Paul VI. Le décret n'était pas mûr, donc il a bien fait de le postposer à la session suivante. C'est plus ardu, continue le père O'Malley, de comprendre cette insistance catégorique de Paul VI pour faire accepter les fameux 19 amendements au texte sur l'écuménisme. Parce que ce texte était déjà largement approuvé par les pères. Et parce qu'aussi, les changements proposés par le pape ne modifiaient pas fondamentalement le texte. On l'a bien vu au vote, ces changements n'ont pas rallié l'adhésion de ceux qui s'étaient fermement opposés au document. Donc, finalement, c'est un coup pour rien, si vous voulez. Le pape a fait une grande pression sur le concile, mais il n'a pas, par là, réussi à rallier les opposants. Quant à la note explicative préliminaire, ça c'est un problème peut-être plus important, mais Mgr Philips, qui l'avait rédigé, pour le bien de la paix d'ailleurs, a toujours affirmé et démontré que cette note ne changeait rien au chapitre 3 de Lumen Gentium. Le jeune Ratzinger s'est d'ailleurs rallié après le concile à cet avis, alors qu'il était très furieux de cette note. Il faisait des campagnes pour qu'on ne la vote pas. Enfin, il s'est rallié après, tout en faisant remarquer que ce texte était très compliqué. Donc Ratzinger a dit que ce texte est très compliqué. Il doit l'être. Hein. Et qu'il était d'ailleurs susceptible de favoriser la primauté. Eh bien, c'est ce qu'avait compris la minorité. Et ça, Ratzinger, à ce moment-là, n'aimait pas. De plus, dans le discours de clôture de la troisième session, Paul VI a consacré une large part de son allocution, 40% paraît-il, à la Vierge Marie, qu'il proclama mère de l'Église, un titre que la commission doctrinale avait repoussé à plusieurs reprises. Ce titre qui, pour Paul VI, couronnait Lumen Gentium. Oui, mais on croyait que Lumen Gentium, c'était déjà une couronne. Hein. Lui, il voulait une couronne au-dessus de la couronne. Donc une démarche qui dépassait ce qui avait été approuvé par le Concile. Et pourtant, Philips a toujours estimé que cette déclaration du pape était légitime, mais qu'elle était en même temps une affirmation délibérée, mais peut-être inutile, de sa primauté. Le Concile existe, mais moi aussi j'existe. Ben oui, il avait le droit. Enfin, ça faisait un peu drôle, quoi. On ne parle pas du titre ici, on parle du procédé. Alors, durant la dernière intercession, entre la troisième et la quatrième, Paul VI avait commencé à déplorer la crise d'autorité et d'obéissance au sein de l'Église, déjà à partir de la troisième session. Et pourtant, dans son discours d'ouverture de la quatrième session, le 14 septembre, le ton du pape était serein, empreint d'un amour fervent pour le monde, par une sorte d'éloge anticipé de Gaudium et Spes d'ailleurs. Il fit aussi, Paul VI, à ce moment-là, deux annonces surprises, celle de son prochain voyage à New York, au siège de l'ONU, qui a beaucoup pesé aussi sur le Concile, mais également, il annonça la prochaine création du Synode des évêques. C'est donc le pape qui l'a décidé motu proprio. C'est pas le Concile, c'est le pape. Premier domaine, si vous voulez, qui a été enlevé à la délibération du Concile, et on n'en a pas délibéré. Ensuite, le 11 octobre, Paul VI retira de l'agenda du Concile la question du célibat sacerdotal. Ou plutôt, il prévint qu'on n'aurait pas à en parler au Concile, parce que, au fond, Jean XXIII avait déjà retiré la question de la discussion conciliaire. Mais Paul VI prévint qu'il était inutile d'y revenir, si vous voulez, tout en acceptant que les pères qui le désiraient fassent connaître sur le sujet leurs préoccupations via le conseil de présidence qui, lui, transmettrait les choses au pape. Et un père comme le patriarche Maximus IV, au nom de la pratique des églises orientales, ne s'est pas abstenu de faire valoir ses arguments auprès du Saint-Père, en faveur donc d'un clergé marié, lui, hein. Donc, deuxième domaine, célibat sacerdotal. Troisième domaine, c'est au cours de cette même quatrième session que Paul VI fit annoncer que le Concile n'allait pas statuer sur la question de la régulation des naissances. Pourtant, discuté par le chapitre de Gaudium et Spes au sujet du mariage, le chapitre de la deuxième partie, hein, le premier chapitre de la deuxième partie. C'est vrai que depuis le 23 juin 64, donc avant même que ne commence la quatrième session, Paul VI avait annoncé l'existence d'une commission pontificale chargée d'étudier ces questions en profondeur. C'est l'origine lointaine, vous le savez, de l'encyclique Humanae Vitae dont on a parlé l'autre fois avec le père R, du 25 juillet 1968. Et enfin, quatrièmement, le pape dut retirer de la discussion des derniers jours la question des indulgences, parce qu'on avait imaginé, pendant qu'on faisait toutes sortes de préparatifs sur les textes dans les commissions, ça urgeait, hein, le concile se finissait, il fallait aller vite, on travaillait jour et nuit, etc. Mais on avait imaginé d'occuper les pères qui n'avaient rien à faire en discutant des indulgences. C'était une catastrophe devant les observateurs. Donc, je lis mon texte ici, c'est vraiment écrit comme ça. Question des indulgences qu'on avait proposée à titre d'intermède pendant que les commissions travaillaient intensément, mais dont le retour sur scène avait profondément choqué les observateurs non catholiques. C'est l'origine de cette très belle constitution apostolique sur les indulgences que Paul VI publiera plus tard, le 1er janvier 67, une splendeur, que j'ai écrit ça. Monseigneur Coquerolles a, dans sa jeunesse, commenté dans Pastoralia. Je l'avais écrit. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, quatre domaines. Maintenant, deuxième point, un théologien. L'apport du Concile, vu du point de vue, non pas d'un pape, qui est intervenu de plus en plus, mais du côté des théologiens, spécifiquement de Conger. Conger, qui a travaillé à peu près tous les textes conciliaires majeurs. Certains paragraphes sont entièrement de sa main. Conger n'a jamais absolutisé l'événement conciliaire. Ce n'était pas le sommet de sa carrière, ce n'était pas la fin de sa carrière, c'était un événement parmi d'autres, c'est tout. Et pourtant, il a beaucoup contribué. Lui-même écrivait en 1975 ceci: « J'ai été très engagé dans la préparation de la plupart des grands textes conciliaire, Lumen Gentium, surtout le chapitre 2, sur le peuple de Dieu, notamment le paragraphe sur un peuple messianique, celui. Gaudium et Spes, Dei Verbum, texte sur la révélation, écuménisme, bien sûr, ta spécificité, la liberté religieuse, la déclaration sur les religions non chrétiennes, l'émission, enfin, à peu près tout, hein, tout ce qui compte, quoi. J'ai beaucoup travaillé également avec la commission du clergé qui a donné le texte Presbyterorum Ordinis, à manquer. Eh bien, bien qu'il ait fait tout ça, dans ses premières évaluations du Concile, il soulignait simplement deux faits. Vatican II marque, disait-il, la fin de la contre-réforme catholique. C'est la fin, c'est fini. Voilà. Et Vatican II permet de passer du juridique qui a pollué, au fond, l'Église pendant des siècles, surtout vers la fin, passer du juridique au sacramentel, revenir au sacramentel, je vous expliquerai. Donc on est sorti, pour Conger, on est sorti avec Vatican II du tridentinisme, la fin du Concile de Trente, ça y est, le Concile de Trente est fini. Le tridentinisme, c'est une figuration particulière du catholicisme romain qui apparaît comme un système englobant tout. Et ça, cette fin a commencé avec la mort de Pie XII. S'ouvre depuis lors un nouveau chapitre de la vie de l'Église dans la continuité avec la tradition vivante qui lie le sort du christianisme, pas au droit, mais à la vie spirituelle. Une vie intérieure, intense, très charpentée. Ça, c'est pour le premier point. On sort du Concile de Trente. D'autre part, l'enjeu ecclésiologique, écuménique aussi du Concile, consistait à réintégrer dans une unité harmonieuse le juridique et le sacramentel, en particulier pour ce qui concerne l'épiscopat. L'épiscopat, ce n'est pas d'abord une nomination, c'est d'abord une ordination. Par-delà quelques siècles de conception de l'Église comme un grand empire spirituel dont le pape était l'empereur et les évêques, les administrateurs des provinces lointaines. C'est un peu devenu ça. Pour résumer ce point de vue, le père Conger dira que Vatican II enseigne une ecclésiologie de l'existence chrétienne structurée en Église, à base sacramentelle, avec la vitalité de cette Église qui vient beaucoup plus de sa base, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des personnes mordues par l'Évangile et des communautés plus ou moins formelles qu'elles forment. Or, disait-il, le père Conger, les hommes qui ont mené ce travail préparatoire au Concile appartenait à ce qu'on peut appeler la périphérie de l'Église. Son corps, mais pas sa tête, pas son centre. Ils n'étaient guère reçus par le système. Et ils étaient souvent gênés par lui. Newman n'est pas venu au Concile Vatican I où il a pourtant été invité. Mais Rahner, Ehring, Schillebeck, Müller, Courtney-Murray, de Lubac, Kühn, Congar, c'est lui, et bien d'autres encore, moins connus mais non moins efficaces, Philips, Smulders, Melina, sont venus à Vatican II, mais ils sont venus de la périphérie, et ils y ont eu la parole. De plus, ils ont de multiples manières, et avec d'autres, parmi lesquelles il faut ranger les observateurs, créé le climat du concile. Alors, du point de vue des acquis théologiques pour Congar, ce sont autant des récupérations que des progrès. Au fond, il n'y a pas vraiment un progrès, simplement on a récupéré ce qu'on avait perdu. 4 siècles de scolastique post-tridentine, faisant suite à 4 siècles de scolastique tout court, n'ont pas pu étouffer l'étincelle de la tradition plus profonde. On est retourné à la tradition du premier millénaire pour Congar. Il n'y a pas eu prescription. L'esprit des pères respire toujours. Ça, c'est Vatican II. Mais ces récupérations ont des limites. Vous savez bien qu'il y avait des limites. La réinterrogation biblique a été imparfaite à Vatican II. Congar disait que, entre le travail des exégètes et le discours des théologiens, il reste une dualité. Et que c'est, à son avis, un des problèmes majeurs qui dominera la vie scientifique de l'Église dans les prochaines années, disait-il. Il disait aussi, pour ma part, j'aimerais qu'aucun grade ne soit donné dans les facultés ecclésiastiques sans qu'ait été honorée l'obligation de publier un travail valable en Écriture sainte. Voilà, pour les théologiens, ça. Hein. D'abord l'Écriture sainte, toujours. Donc il dit, cette réinterrogation biblique a été imparfaite. Ensuite, la considération de l'histoire n'a fait qu'une timide rentrée au Concile. Oui, on a repensé l'histoire, qui dit monde, dit histoire, comme il dira à un certain moment, quand on parle de monde, on veut dire histoire, mais c'est encore timide au Concile. Ensuite, plusieurs grands chapitres de l'éthique et du comportement chrétien ont été laissés ouverts à la page titre. Régulation des naissances, mariage mixte, discipline pénitentielle, indulgence, n'ont pas été très loin. Plusieurs problèmes n'ont même pas été touchés, disait-il. Celui des ministères, autre que celui de la prêtrise. Celui de la place des femmes dans l'Église. Celui de la façon dont le prêtre peut vivre de l'autel. Finance. Il écrit des beaux articles sur les biens ecclésiastiques, le père Congar. Celui de la désignation des évêques, celui de la réforme de la curie, celui de la pauvreté, celui des titres, celui de la pompe extérieure. Beaucoup de choses relèvent désormais de la vie de l'Église qui se fait tous les jours et ne demeurera pas inactive, croyait-il. Ou encore, si vous voulez, encore un autre jugement du père Congar, de manière encore plus emblématique, il disait, voilà, pour Karl Rahner, le plus important de toute l'œuvre du Concile en ecclésiologie, c'est la redécouverte de l'Église locale. Karl Rahner disait, l'importance du Concile, elle est là. Mais pour Congar, c'est la réinterprétation de l'adage « Hors de l'Église, pas de salut », dont il est l'auteur, dans Lumen Gentium 17, dans Agentes 7, allez voir, c'est lui. Eh bien, ça c'est encore tout aussi majeur, comme est capital la reconnaissance qu'il existe une hiérarchie des vérités. Dans le décret sur l'écuménisme, en numéro 11, on emploie cette expression « hiérarchie des vérités ». Ça veut dire qu'il y a des choses plus au centre et des choses plus loin du centre. Il y a des choses plus importantes les unes que les autres. C'est plus important de dire que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme que de donner à Marie le titre de mère de l'Église, si vous voulez, pour donner un exemple congarien. Donc, je citerai pour finir ce deuxième point le mot de Congar à Barthes, car Karl Barth a été invité comme observateur au Concile, hein, protestant entre tous, hein, dogmatique, ecclésiastique, mais il était malade, il était souvent à l'hôpital, alors il ne pouvait pas amener sa femme et son médecin au concile, donc ça n'allait pas. C'est plus tard qu'il est venu, un an après, il a été reçu par Paul VI, et il lui a apporté, je ne sais plus quel écrit, alors Paul VI lui a dit, ah, heureusement vous n'êtes pas venu avec la dogmatique ecclésiastique, ça veut dire avec ses 17 volumes, le pape savait, hein, il avait beaucoup écrit. Donc, enfin, on avait chargé Congar à ce moment-là de discuter avec Barthes dans des conférences publiques. Et Congar a répondu à Barthes qui lui demandait qu'est-ce qui était le plus important, notamment à propos du schéma sur la liturgie. Une des questions que Barthes m'a posée a été, d'après vous, quelle est l'idée essentielle du Concile? Et j'ai répondu, le service. Pour Congar, c'est comme ça. Je crois, disait-il, que cette idée a joué un très grand rôle dans le Concile et qu'elle est restée comme l'âme des ministères. Après le Concile, donc, le père Congar, aurait dû être honoré du chapeau de cardinal à un certain moment, mais comme il avait pris position pour une distance critique d'où m'en éviter, son chapeau n'est pas tombé sur sa tête, mais sur la tête de Daniel Hou, hein, qui en était content aussi. C'est après alors que Congar était cardinal. Hein. Eh bien, il est dans des grands experts conciliaires, ensuite honoré du chapeau de cardinal, le seul sans doute à ne pas avoir suivi le chemin qui a opposé de façon de plus en plus systématique les déviations de l'après-concile à la lumière du concile. Beaucoup de grands experts comme de Lubac, Daniel Hou, Amer, Jean-Jérôme Amer, hein, ce dominicain belge, Journet et même Ratzinger ont pris de plus en plus distance du concile, mais jamais Congar. Il reconnaissait l'après-concile, c'est une épreuve pour les hommes de sa génération. Le père de Lubac, disait-il, en est très affecté et il ne s'est absolument pas ouvert à ce que l'après-concile présente de positif. Il y a du positif. Alors, voilà, il était malade de plus en plus, mais enfin, il a continué à dire que Vatican II a été suivi par une mutation socioculturelle dont l'ampleur, la radicalité, la rapidité, le caractère cosmique n'ont d'équivalent à aucune autre époque de l'histoire. Ce qui s'est passé là tout de suite, après Vatican II, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, disait-il. C'est un historien, le père Congar, hein, il connaissait bien. Mais pour lui, cette crise n'a pas été suscitée par le Concile. Elle dépend de façon décisive d'autres causes, de causes qui ont dévoilé leur force après Vatican II, et que Vatican II a plus prévenu et conjuré que suscité pour lui. Il disait ceci, « Je ne nie pas que Vatican II ait une responsabilité dans la crise. » Du seul fait qu'il y a eu concile, il y a eu discussion. La crise est venue aussi par là, mais je voudrais évoquer quelques fruits du concile, des promesses dont nous ne tenons encore que les primeurs, disait-il, la vitalité des églises locales, le déploiement des charismes et des ministères, notamment dans les communautés nouvelles, la progressive maturation des efforts écuméniques, l'engagement partout pour l'homme. Quand un arbre tombe, cela fait du bruit. Quand une forêt pousse, on n'entend rien. Voilà. Congar pensait comme ça. Bon. Le père Congar fut aussi, parmi les théologiens de langue française, l'un des rares à prendre au sérieux la contestation théologique de Vatican II. En particulier, il a suivi de près l'évolution des réflexions intransigeantes sur la liberté religieuse. Il a écrit donc, au sujet de Mgr Lefebvre, un livre décisif. On devine donc, par là, je finis ce point-là, que l'interprétation du décret sur la liberté religieuse pourrait bien apparaître comme la clé de l'avenir théologique du Concile. On dit tout ce qu'on a dit, je ne retire rien sur les quatre constitutions, hein, importantes, l'ossature, les piliers, etc. Mais au fond, il se pourrait que ce qui tourne autour du texte sur la liberté religieuse, dont vous a parlé le père Carniaux, soit le plus important pour l'avenir théologique. Mais revenons maintenant, après la figure d'un pape et celle d'un théologien, Passons en revue l'ensemble du magistère. Parce que on a peur de rien, quoi. J'ai déjà suggéré plusieurs fois, prenez le petit plan là, que l'axe central, enfin, le grand plan, que l'axe central du concile va depuis Lumen Gentium, qui présuppose Dei Verbum et est rendu possible par Sacro Sanctum Concilium, vers son développement ultime dans Gaudium et Spes, le véritable orient du concile. Et je pense que tous les documents magistériels ultérieurs, jusqu'à nos jours, s'ordonnent tous selon ce genre de structure. Évidemment, on pourrait aussi faire le travail à partir de Lumen Gentium, que je vous le disais au début, mais je pense que l'ensemble du concile, c'est la clé d'interprétation du magistère qui a suivi, et pas le contraire, pas la réciproque. Un concile, c'est un concile. Tout le reste est en dessous, hein, du concile. Après le concile, vont être reprises progressivement presque toutes les lignes qu'il a tracées. Alors, je vous ai mis ce document, là, chronologique, en annexe. Il y a d'abord, au commencement, ES, ça veut dire le motu proprio de Paul VI, Ecclesiae Sanctae, parce qu'il fallait bien faire passer en forme de décret, de loi, etc., législatif, si vous voulez, il fallait bien appliquer toutes les orientations données dans le décret sur les évêques, le décret sur les prêtres, le décret sur les religieux et le décret sur les missions. Ça, c'est le motu proprio ES, Ecclesiae Sanctae, 66. En 1975, vous avez comme très important EN, ça veut dire Evangelii Nuntiandi. Vous repérez ça, 75, et puis on descend et on voit EN, c'est une exhortation apostolique post-synodale, c'est après le synode que Paul VI a convoqué à propos de l'évangélisation et qui a donné lieu à ce texte. Les exhortations post-synodales sont soulignées dans mon plan. En 79, le nouveau pape, Jean-Paul II, doit mener à bien la publication d'une exhortation apostolique post-synodale sur la catéchèse, CT, catéchesi tradende. Et ça, c'est la ligne d'en haut, si vous voulez. C'est ce qui concerne la catéchèse, c'est en même temps ce qui concerne l'apostolat des laïcs, ce qui concerne la liberté religieuse, etc. Bon. En 81, on voit une sorte de retour aux orientations de Gaudium et Spes, parce que on voit en même temps familiaris consortio sur la famille, hein, c'est bien la ligne de Gaudium et Spes, et aussi la première encyclique sociale de Jean-Paul II, Laborem Exercens, LE. En 83 est promulgué le CIC, Code de droit canon. Jean-Paul II dit de ce code qu'il est en quelque sorte le dernier des documents du Concile. Vous vous rappelez peut-être que Jean 23 avait assigné 3 buts au Concile. La réforme du droit canon, le synode de l'Église de Rome et l'écuménisme. Ben voilà, c'est seulement là que la réforme du droit canon latin a eu lieu, en 83. En 84, on trouve l'exhortation post-synodale Reconciliatio et Penitentiae, RP, pas RIP, mais RP. Ça, c'est, on sent bien que ça, c'est la ligne de Sacro Sanctum Concilium, hein, la liturgie, quoi, hein, là-dedans. Alors, Très rapidement convoqué, préparé par un rapport de la Commission théologique internationale, vient en 85 le synode extraordinaire célébrant les 25 ans de la clôture du concile. Il n'y a pas de document officiel, sinon le rapport final rédigé par le cardinal Danels, qui était le secrétaire spécial, avec Casper comme secrétaire adjoint. Voilà, ça c'est le 7 décembre. Et ce rapport met justement en évidence que tout le concile peut être compris comme, à partir des 4 constitutions, comme un temps pour l'ecclésiologie de communion. Si Paul VI considérait Vatican II comme le plus grand des catéchismes des temps modernes, c'est en 85 que le synode a émis le vœu que soit rédigé un catéchisme universel, qui donnera donc lieu au catéchisme de 1993, au CEC, hein, 1993. Alors, il y a d'autres textes. Hein, la Congrégation pour la doctrine de la foi, la suprême congrégation, fait connaître en 1986 une instruction sur la liberté de conscience des théologiens, qui poursuit au fond la ligne du texte sur la liberté religieuse. En 1988 paraît l'encyclique de Jean-Paul II, Sollicitudor Rei Socialis, qu'on peut encore reprocher de la lignée de Gaudium et Spes. À la suite du synode sur les laïcs est publiée en 1988 l'exhortation Christi Fideles Laici, qui reprend l'enseignement de Lumen Gentium et du décret sur l'apostolat des laïcs. Vous voyez comment on peut tout raccorder, hein, si on veut. L'effort de Agentes se trouve prolongé dans l'encyclique Redemptoris Missio de 1990. RM, Redemptoris Missio. La troisième encyclique sociale de Jean-Paul II en 91, Centissimus Annus, paraît pour l'anniversaire de Rerum Novarum et poursuit aussi la ligne de Gaudium et Spes. En 92 est publiée l'exhortation post-synodale Pastores d'Abo Vobis, ça c'est l'enseignement de Presbyterum Ordinis qui est repris, du décret sur les prêtres, ainsi que du décret sur l'enseignement Optatum Tossius, des prêtres, formation des prêtres. Cette même année, 92, paraît la lettre de la Congrégation de la doctrine de la foi sur l'Église comme communion. 93, catéchisme de l'Église catholique, qui n'a rien de nouveau en matière d'ecclésiologie. Rien de neuf dans le catéchisme. Ça n'est jamais que le reflet des textes du Concile. En 93 aussi, on voit la commission biblique pontificale reprendre la ligne de Dei Verbum, puisqu'elle produit un texte sur l'interprétation de l'Écriture dans l'Église. Très important. Puis, on voit en 92 l'épiscopat latino-américain donner les conclusions de son assemblée de Saint-Domingue, donc pas ici seulement le magistère romain, aussi le magistère des évêques ailleurs, sous le titre « Nouvelle évangélisation, promotion humaine, culture chrétienne ». C'est le texte post-conciliaire le plus proche des intuitions et des visions de Gaudium et Spes, certainement, avant que l'assemblée suivante, de 2007, à Parricida, n'ait cours. Puis, alors, il y a eu encore trois encycliques de Benoît XVI, hein, du côté de la morale sociale. Donc, vous voyez cette somme de documents. J'en ai laissé beaucoup de côté. On pourrait compléter ce panorama. Mais cette mise en perspective veut seulement montrer comment le magistère des 45 dernières années s'enracine toujours, d'une manière ou d'une autre, dans le Concile. Regardez les notes. Regardez les notes. Même si parfois il prolonge ce magistère. Magistère veut dire enseignement. Hein. Et comment, je voulais montrer aussi comment, par ailleurs, la postérité de Vatican II peut se résumer sous ces deux axes, toujours les deux mêmes. Un axe ecclésiologique, Lumen Gentium, et un axe anthropologique, Gaudium et Spes. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes accents, partout. Donc, en prenant un peu de hauteur, comme ça, enfin, on n'est pas sur le Mont Blanc, hein. On est en haut de la cathédrale de Bruxelles, hein, pas plus haut, hein, mais en prenant un peu de hauteur, on regarde en dessous et on voit comme ça des lignes de crête apparaître dans l'enseignement post-conciliaire. Alors, beaucoup d'autres documents pour la vie religieuse, notamment de très bons documents sur la formation, pas sur la clôture de Monial, très mauvais document, je le dis. On ne peut pas le qualifier d'avant-gardiste, il est en deçà du synode, sur la vie consacrée, bon, rétrograde celui-là. Mais il y a aussi une extraordinaire exhortation apostolique, Vita Consecrata, pour la vie consacrée, magnifique, et une réplique d'ailleurs dans l'instruction Repartir du Christ. Vrai progrès dans la doctrine. Puis il faudrait faire un peu plus de cas que je n'en fais, mais vous voyez comme ça gonfle. Hein, un fleuve de papier nous arrive de Rome, disait le cardinal Danels. Tous les jours, un fleuve de papier nous arrive de Rome. Oui. Quand même mettre un peu d'ordre dans ce fleuve, c'est canalisé. Il faudrait faire plus de cas des exhortations apostoliques qui ont suivi les grands synodes continentaux pour l'Afrique, il y en a eu deux, toutes récentes au début de l'année, pour l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Océanie. Tout ça doit être mis en consonance pour voir un peu ce qui se passe Mais ça vous fait quelques milliers de pages, hein, vous comprenez. On ne peut pas faire ça en 10 minutes. Je mentionne encore le document bien connu dans cette maison de la commission biblique pontificale qui s'intitule « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne ». Un document qui clôt des siècles de polémiques anti-juives dans l'Église. Ça, c'est la ligne de Nostra Aetate, n'est-ce pas ? Qui n'avait pas encore été reprise depuis lors. Et aussi la ligne de Dei Verbum avec l'exhortation Verbum Domini sur la parole de Dieu, hein, du 30 septembre 2010, qui a apporté de larges confirmations sur l'importance capitale de la constitution dogmatique Dei Verbum que nous avons plusieurs fois déclarée comme fondatrice de tout l'édifice. Oui. Enfin, si avec Dei Verbum, on ne pourrait pas aller plus loin. Il faut autre chose que Dei Verbum. Il faut autre chose qu'une pierre de fondation, hein. Il faut encore tout le bâtiment. Alors, dans un point plus bref, je voudrais essayer de dire dans quel genre d'évolution, enfin, je pose des jalons, c'est tout, dans quel genre d'évolution on se trouve, quelle évolution. Que s'est-il passé à Vatican II? Ça, c'est le titre anglais de l'ouvrage du père O'Malley. What happened in Vatican II, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des articles qui s'intitulent « S'est-il passé quelque chose à Vatican II ?» ou bien « Qui a peur de Vatican II ? Faut-il avoir peur de Vatican II ?» Hein, il y a des livres ou des articles ainsi. Je prends maintenant appui sur un chrétien, qui est un livre posthume d'ailleurs, d'un grand maître en philosophie politique, récemment décédé, qui examinait comme ça un peu l'évolution de l'Église en termes de philosophie politique. Et il disait ceci, avec le dernier concile, il s'appelle Pereo Sosin, moi je ne le connais pas par ailleurs, avec le dernier concile, l'Église s'est retrouvée chez elle dans le monde, sortie des révolutions démocratiques, comme elle avait été dans le monde antérieur à ces révolutions. Mais depuis ces révolutions, elle n'était plus chez elle. Dans le monde. La parenthèse contre-révolutionnaire semble définitivement refermée. À Vatican II, l'Église se retrouve en phase avec le monde. En politique, cela lui permet de renouer avec les forces de progrès. La démocratie, la gauche, un certain radicalisme. L'Église devient moins cléricale parce qu'elle ne ressent plus le besoin d'opposer le catholicisme des clercs à la corruption des laïcs. Laïcs. Hein. On considère parfois que Vatican II a conclu la période ouverte par le Concile de Trente. C'est ce qu'a dit le père Congar. Hein. Avec Vatican II, le Concile de Trente est fini. Comme si, dit le philosophe politique, comme si Vatican I relevait encore du monde prémoderne, et il cite le père Congar. On a donc coutume d'opposer Vatican I à Vatican II, comme un concile réactionnaire, Vatican I, à un concile progressiste, Vatican II. Et cependant, chacun le sait, même la réaction, c'est encore un profond changement. Même les réactionnaires sont des gens qui changent. Hein. Le concile qui marque véritablement la fin de l'ancien régime, c'est Vatican I. D'accord. Paradoxalement, le concile Vatican II retrouve au contraire une tradition politique plus ancienne qui, depuis le XIIIe siècle, affirme l'importance du pouvoir des laïcs et de l'autonomie de la sphère politique. On savait ça jusqu'au Moyen-Âge. Après, on ne le savait plus. Vatican II retrouve ça. Les conciles Vatican I et Vatican II forment ensemble les deux pôles entre lesquels aujourd'hui aussi l'Église catholique. La centralisation romaine a l'inconvénient de tous les centralismes. C'est bien d'être centralisé, hein, comme Vatican I essaie de le faire. Elle anémie la base, elle déracine, elle restreint l'initiative, elle limite l'imagination, d'un côté. D'autre part, la dimension laïque et la confiance dans la liberté qu'on associe à Vatican II ont l'avantage de contrebalancer cette première dimension. L'ecclésiologie de Lumen Gentium vient équilibrer celle de la constitution Pastor Eternus de Vatican I, qui avait décrété l'infaillibilité pontificale. Donc ces deux conciles doivent être vus ensemble, Vatican I et Vatican II. Un qui a décrété l'infaillibilité pontificale, l'autre qui a déclaré la sacramentalité de l'épiscopat. C'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. L'Église catholique abandonne désormais l'idée d'une obligation chrétienne spécifique à l'État. Ça, c'est Vatican II. L'État n'a pas d'obligation. L'État est laïque. Au cœur de son enseignement, l'Église place désormais la liberté religieuse. Voilà, lui pense ça aussi. D'abord, la liberté religieuse est au cœur. La prise en compte de l'autonomie du temporel la pousse, l'Église, à souligner que des concitoyens n'ont pas nécessairement besoin d'être des coreligionnaires. Comprenez ? Concitoyens, ça ne veut pas dire coreligionnaires de la même religion. Ça, c'est Vatican II. Le pape Benoît XVI, venons-y, vient de promulguer le 11 octobre, tout le monde l'a lu, je suppose, je sais, une année de la foi, qui devra s'étendre du 11 octobre 2012 prochain, c'est-à-dire pour les 50 ans exacts de Vatican II, 50e anniversaire de l'ouverture du Concile, qui devra s'étendre depuis là jusqu'à la solennité du Christ-Roi de l'année suivante, 2013. Ça, c'est l'année de la foi. Le pape considère que ce peut être l'occasion de revenir au texte de Vatican II, comme s'il nous avait entendu. Hein. Formidable, hein, le pape. Et dit-il du catéchisme. Il faut que les chrétiens se mettent à réétudier le catéchisme de l'Église catholique. De les connaître, de les assimiler comme des textes qualifiés et normatifs du magistère à l'intérieur de la tradition de l'Église. C'est comme ça qu'il parle. Parce que, dit-il, lire et recevoir le Concile guidé par une juste herméneutique, bonne interprétation, comme on fait ici, c'est trouver une grande force pour le renouveau toujours nécessaire de l'Église. Vous voulez que l'Église se renouvelle ? Étudiez Vatican II et le catéchisme. Assimilez. C'est balancé, c'est pas moi, hein, mais je pense à la même chose. Alors, il y a un document de la doctrine de la foi qui vient d'être publié, tout juste maintenant, cette semaine, qui donne des indications pastorales pour cette année de la foi et qui dit notamment ceci. Regardez comme c'est bien fait. Enfin, je trouve que la doctrine de la foi fait parfois des bonnes choses. Tout à fait comme on pense ici. À partir de la lumière du Christ qui purifie, illumine et sanctifie dans la célébration de la liturgie, à partir de Sacro Sanctum Concilium, et avec sa parole divine, Dei Verbum, le Concile a voulu approfondir la nature intime de l'Église, Lumen Gentium, vous pouvez le dire maintenant, vous voyez bien, hein, et son rapport avec le monde contemporain, Gaudium et Spes. Autour de ces quatre constitutions, véritables piliers du Concile, se regroupent les déclarations, les décrets qui affrontent quelques-unes des questions majeures de l'époque. Vous voyez, comme notre schéma est bien fait. Hein. Je vais conclure. Je voudrais bien vous lire une page plus fantaisiste, c'est pas de Benoît XVI, donc, marquée par l'esprit français, bien sûr, hein, c'est fantaisiste, disais-je. C'est pas allemand, c'est français. Qu'il faut entendre sur le ton imaginons un autre cours des choses. Imaginons tout à fait autre chose, un autre scénario. Écoutez, ça, c'est un français qui a écrit ça, hein, c'est sûr. On imagine, hein? Bob Kennedy et Martin Luther King n'auraient pas été assassinés en 1968. Et Michel Rocard aurait succédé à De Gaulle en 1969. Leur charisme, réuni à celui de Dubček et de Willy Brandt, aurait évité l'enlisement au Vietnam et 20 ans d'une guerre froide très superfétatoire. La chute du mur de Berlin, avec deux décennies d'avance, aurait rendu inutile le recours de l'histoire aux robustes certitudes d'un pape slave. On n'aurait même pas eu besoin de ça. Accédant au pontificat à la mort prématurée de Jean-Paul Ier, Hans Küng, Martin II, Martin. Ça va, Martin? Comme Luther, hein? Martin II aurait immédiatement confié à Habermas, philosophe, la rédaction de sa première encyclique. Il aurait appelé Michel de Certeau à la doctrine de la foi, puis convoqué un concile désormais permanent à Saint-Paul-hors-les-Murs, ralliant l'ONU et l'UNESCO à son éthique planétaire. Mais pas le père Jean Cardonnel, porte-voix d'une église antilibérale parallèle, en exil à Porto Alegre. Revenu à l'état laïque, mais président aux intercommunions d'une multitude de communautés de base, Bernard Béret et Jean-Claude Barrot, ça vous rappelle, auraient été élus épiscopes de Lyon ou de Paris. Tandis que l'abbé Ratzinger mettrait la dernière main à une somme sur Saint Bonaventure et composerait de la musique dans un couvent sécularisé de Bavière. On peut imaginer, hein? Y aurait-il plus de foi sur la terre? Hans Küng le croit, etc. Enfin, on continue. Hein? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr quand même. Hein? On peut voir les choses comme ça. Alors, de manière un peu moins anecdotique, Congar toujours disait que la réception du concile serait longue, très longue. Qu'est-ce que c'est la réception du concile? C'est encore Congar qui a réacclimaté ce terme dans la théologie catholique. Hein. C'est un terme qui nous vient de, qui est très ancien et qui nous vient revient par, par l'orthodoxie russe d'ailleurs. Il a réacclimaté ça et il disait ceci. On peut définir la réception comme le processus par lequel un corps ecclésial fait sienne en vérité une détermination qu'il ne s'est pas donné à lui-même, en reconnaissant, dans la mesure promulguée par un concile, une règle qui convient à sa vie. Voilà. C'est quand le peuple de Dieu reçoit les décisions d'un concile comme une règle bonne pour sa vie. C'est ça qu'on appelle la réception d'un concile. Et Congar poursuivait ceci, comme historien. C'est un fait, un grand nombre de conciles ont été suivis d'une assez longue période, soit de discussions, soit de troubles, sur le point même de doctrine qu'ils avaient dirimé, ils avaient complètement expliqué, décidé, soit encore de non-application, ou d'application hésitante et longue des décisions du concile. C'est courant. Mais pour plusieurs conciles, il y eut aussi non-réception par une partie de l'Église, pour des raisons où le sentiment national, par exemple, ou la politique ont joué un grand rôle. Le cas du Concile de Trente, à cet égard, est très significatif. Le cas des séminaires qui se sont installés tardivement en France, parce qu'on n'a pas voulu promulguer le Concile de Trente. Il a fallu un siècle ou deux avant que la France n'accepte de promulguer les décisions du Concile. Et donc, le cas du Concile de Trente est significatif car il montre un lien étroit entre la réception d'un concile et son efficacité. Cette efficacité est liée à la reconnaissance par l'Église de son bien propre dans ses décisions du concile. Ce fait qui touche au fond de la réalité de la réception peut être illustré par un autre fait contemporain, celui-là est d'une très grande importance, sur lequel Congar est souvent revenu. C'est l'accueil fait à l'encyclique Humanae Vitae, qui n'est pas reçu, ou qui n'est que partiellement reçu, comme disait le père Sesboué, que cite ici le père Congar pour son article dans la NRT. Pour le père Sesboué, on peut dire qu'il y a eu à la fois réception et non-réception. Voilà. Ou mieux, qu'on se trouve, attention, dans un processus non achevé, au terme duquel quelque chose sera reçu, mais d'autres éléments du concile, cette fois-ci, seront oubliés ou précisés de telle manière que, sous une formulation renouvelée, alors ils pourront être reçus. Fin de citation. Donc, ce sera vraiment l'objet de notre dernière séance, de nous intéresser à la manière dont le Concile Vatican II a été interprété, dans son herméneutique, de continuité ou de réforme ou de rupture, n'est-ce pas ? Et aussi de nous intéresser à cette question de savoir si finalement la réception de Vatican II n'est pas encore devant nous. Est-ce qu'elle a déjà seulement commencé ? C'est pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.